Père Michel Van Paris, est-ce qu'on peut dire que le cœur de votre parcours s'enracine dans le monastère de Cheftogne? Et quelle est cette particularité du monastère de Cheftogne en Belgique?
Certainement, puisque je suis entré à l'âge de 17 ans au monastère de Cheftogne. Donc, pour moi, le choix était certainement de devenir moine. L'autre choix était certainement l'ouverture œcuménique de cette communauté. Donc, puisque j'avais découvert au collège des jésuites le monde anglican et aussi le monde orthodoxe russe, le Seigneur m'a pris comme cela, comme il fait avec la plupart d'entre nous, c'est-à-dire il prend des moyens très humains, très limités pour nous faire découvrir un chemin qui est pour moi devenu un chemin de vie, un chemin spirituel. Mais certainement ce qui a été déterminant dans le choix que j'ai fait de Cheftogne, donc bien sûr la vie monastique, mais aussi une fascination pour le Christ qui m'a fait découvrir le roman de Dostoïevski.
Expliquez-nous.
C'est-à-dire une figure très humaine qui implique pas seulement la raison, la tête, mais qui implique aussi le cœur. Donc je suis entré à Cheftogne, une communauté alors bien située dans la tradition bénédictine, qui a une caractéristique assez surprenante, disons à première vue. D'abord, c'est que c'est une communauté internationale. Actuellement, la communauté compte 28 moines et il y a 11 nationalités différentes. Et d'autre part, c'est une communauté où, disons, cette ouverture œcuménique, où se faire des faits œcuméniques. Dans ce sens qu'il ne suffit pas donc de rencontrer l'autre, de connaître sa spiritualité, de l'étudier, sa théologie, sa littérature, ses langues. Il faut quelque part se faire l'autre sans le tirer à soi, mais en allant vers lui. C'est-à-dire la division des églises est un scandale. Et je pense que ce qui préside à la vocation de Cheftogne et à toute vocation œcuménique authentique, c'est la souffrance pour cette Église déchirée par les fautes humaines, je pense, et qui n'est plus capable à cause de cela de témoigner du visage authentique, total du Christ ressuscité.
Tout à l'heure, vous avez parlé de Dostoïevski,
oui.
Du Christ par le cœur, vous pourriez nous expliquer?
Je pense que dans la vie monastique, on ne cesse jamais de chercher le visage authentique du Christ et en quelque sorte d'être transformé par l'Esprit Saint en ce visage même du Christ ressuscité, qui est en même temps un Christ très humain. Donc je prends simplement cette image que j'aime beaucoup dans l'église latine de Cheftogne, donc que nous avons pu construire, et dans le fond de l'abside, il y a un Christ en gloire qui a été peint par un moine orthodoxe russe, le père Zénon, et qui est donc le Christ en gloire, mais qui porte les stigmates, comme dans l'apparition de Christ à Thomas et aux apôtres, donc dimanche après Pâques. Le Christ qui est à la fois un Christ glorieux, mais aussi un Christ pleinement humain. Donc ce Christ en gloire qui reste notre sauveur et qui reste le Seigneur de l'Église. Je pense que c'est ce rapport-là qui est important. Ce qui m'a frappé certainement quand je suis entré les premières années, c'est de trouver chez les disciples immédiats, disons les premiers pionniers du mouvement œcuménique, qui sont contemporains au père Congar, au père Christophe Dumont, donc tous ceux-là que j'ai quand même encore bien connus, il y avait une mystique de l'Église, comme épouse du Christ et comme corps du Christ. J'espère que je puisse toujours insérer, disons, mes démarches, la laisser inspirer par cette mystique de l'Église, mais qui est une mystique d'amour pour le Christ glorieux qui viendra. Je pense que nous tous, nous allons découvrir avec une certaine surprise son visage à la fois de fils du Père, mais aussi de fils de l'homme.
L'élan qui a porté Cheftogne.
Il y a à mes yeux, trois ou quatre grandes périodes dans cette histoire d'une communauté. Donc, une communauté fondée en 1925, fondée dans une perspective œcuménique. Et donc, la première période, certainement, va de 1925 jusqu'à 1958-59, l'annonce du concile par le pape Jean XXIII. C'est une communauté qui a beaucoup souffert et moi j'ai vu même chez les plus anciens des blessures psychologiques qui n'ont jamais été guéries quelque part à cause de maladresses dont ils ont été l'objet. Ils ont eu un charisme d'entêtement.
Ou de persévérance.
De persévérance, mais comme les moines sont parfois très têtus, ils ont tenu. Mais notre force évidemment c'est d'avoir des racines monastiques qui sont communes avec l'Orient chrétien, quelque part aussi d'être accepté par l'Orient chrétien, donc surtout orthodoxe, en tant que moine. Alors, ça nous a beaucoup porté, ça nous porte toujours. Et ensuite, il y a une deuxième période qui est donc le 58-59. Donc, c'était en quelque sorte l'explosion de joie de ceux qui avaient eu tort, qui enfin avaient raison. Et c'est une tentation plus insidieuse que d'avoir tort. Et donc, un appel qui est venu de tant de côtés différents pour être présent dans cette ouverture œcuménique de l'Église catholique qui était quand même assez neuve, et puis d'être dépassé très vite par cette ouverture. Donc il a fallu repenser notre place dans la situation œcuménique. Donc à partir de 1970-71 est devenu alors en quelque sorte l'automne œcuménique officiel. Il y a une espèce de grande euphorie un peu partout, puis les choses sont allées beaucoup plus lentement. Parce que la vie a résisté, les vieilles habitudes, les réflexes inconscients de tous les côtés, donc pas seulement du côté catholique, mais aussi du côté orthodoxe, du côté protestant. Et alors, il y a eu une période où nous avons pris conscience en tant que communauté que nous devions être présents dans la prière et les débats œcuméniques aussi au niveau théologique, mais en tant que moine, dans une tradition qui est la tradition de Saint-Benoît, qui est extrêmement diversifiée. Cette période-là, si je vois qui irait pratiquement jusqu'en 1990, serait l'ouverture aux églises orthodoxes non chalcédoniennes, surtout donc avec les monastères du désert de Sété, du Badinatroun. Donc il y a eu cette espèce d'ouverture qui nous a donné beaucoup, qui est exigeante parce que, l'Orient chrétien est pluriel. Et ça a été un beau défi.
Jean-Paul II, dans une de ses exhortations, dit que l'œcuménisme passe par la conversion et par la conversion intérieure.
La conversion profonde et la conversion au Christ. Il y a un chemin de repentir au niveau personnel, mais aussi au niveau, je pense, des églises et des communautés chrétiennes. Il est sans doute beaucoup plus difficile de se convertir comme église ou comme communauté chrétienne que comme personne.
Au cours de toutes ces années, Père Michel, est-ce qu'il y a eu des moments, des rencontres qui ont été pour vous des moments très très importants pour votre parcours, mais aussi bien évidemment pour toute cette recherche de l'unité?
Je pense que la dimension amitié personnelle et je dirais même amitié spirituelle entre membres du corps du Christ mais baptisés dans des églises différentes est très importante parce que on refait l'expérience que j'ai fait comme adolescent par rapport au Christ Dostoïevski de recevoir quelque chose du Christ de l'autre chrétien. Je pense que nous devons toujours continuer à demander les uns aux autres ce que lui perçoit, ce que lui vit de ce visage du Christ qui passe par des personnes, par des cultures, par des perceptions historiques du vécu de la foi. C'est-à-dire, si je rencontre un chrétien copte orthodoxe, un moine copte orthodoxe ou un moine arménien, il y aura des configurations particulières et je dois apprendre de l'autre. Parce que apprendre de l'autre, en quelque sorte, m'aide aussi à approfondir ma propre tradition et à en découvrir des virtualités insoupçonnées. Il faut que lui grandisse et que moi je diminue. Et je pense que c'est un programme œcuménique. Donc c'est certainement, on peut dire, le Seigneur m'a donné cette grâce de consacrer ma vie à l'unité des chrétiens, mais j'ai reçu tellement plus que je n'ai pu donner.